Konferenzen, Enregistrementer zu aktuellen Themen.
Radio 100,7.
1991 hat Lützeburg Manifesta 2, die nach ganz jung europäisch Biennale für zeitgenössisch Kunst abgeholt. Mit der Manifesta aus Lützeburg auf die Weltkarte von der modernen Kunst kommen. Verschiedene Lokalkünstler konnten sich international bekannt machen. Durch eine Kombination von glücklichen Umständen konnte 1996 das Casino Luxembourg Forum d'Art Contemporain kreiert gehen. 1995 hat der Lützburger Artist Bert Theis Succes auf der Biennale zu Venedig. Allgemein Begeisterung kam ab, weil Lützburg 1995 auch Capital Européenne de la Culture gauf. Und nicht zu vergessen, weil Chamber 1995 gering Lut gehen hat für die Kreation von einem Museum mit moderner Kunst, der spätere Madame Luxembourg. Denn Enrico Lunghi guckt an dieser Konferenz ob die Phase von der künstlerischen Entwicklung an ihrer Erbschaft zu Lützburg zurück. Mehr auch ob seine Herausforderungen an Limiten. Informationen zu dieser an den anderen Konferenzen am Kader von der Luxemburg Art Week 2018 sind zu finden um Sit vom Radio in den Konferenzen. Es wird genügt dem Christian Moser, den die Konferenz hier für dich vorstellt.
Bonjour et bienvenue à cette deuxième conférence ici au Hall Victor Hugo pour la quatrième édition de la Luxembourg Art Week. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui Enrico Lunghi pour nous parler des 20 dernières années, de l'évolution des 20 dernières années de l'art contemporain au Luxembourg. Il connaît le sujet tout simplement par cœur parce qu'il a participé et contribué largement à cette évolution de l'art contemporain. Je suis certain qu'on va voir beaucoup d'exemples assez frappants et édifiants sur ce que c'était avant et sur ce que c'est aujourd'hui et les transformations du monde de l'art ici dans notre petit pays. Je remercie beaucoup Enrico d'être venu ici. Enrico, en ce moment, est engagé par le ministère de l'Éducation nationale. Il travaille au script et donne aussi des cours à l'Université de Luxembourg. Et sans tarder, je lui laisse la parole. Merci.
Merci Christian pour ces mots d'introduction. Merci aussi à Alex Redding à qui m'a amicalement invité à tenir cette conférence. Et puis merci à vous toutes et tous d'être présents. Cette année, il y a 20 ans exactement, s'est tenu Manifesta 2 à Luxembourg, ici dans la capitale. Et je vais faire mon discours à partir de cela et puis montrer un peu tout ce qui s'est fait en ces 20 ans et le mettre dans un contexte. Alors, l'image que vous voyez ici, cette photo a été prise en été 1998 dans la rue Notre-Dame. Ce n'est donc pas un décor de Noël qui aurait été maladroitement accroché, mais c'est l'œuvre de Félix González Torres, donc, qui a fait partie de Manifesta 2. Alors, le vendredi 26 juin 1998, dans la grande salle au premier étage du cercle municipal, se tenait la conférence de presse de Manifesta 2, Biennale européenne d'art contemporain. Sur l'estrade, derrière les micros apprêtés, il y avait Madame Erna Hennico-Schöpfes, ministre de la Culture, Madame Lydie Polfer, bourgmestre de la ville, Henry Myrick Hughes, président de Manifesta, les trois curateurs, Barbara van der Linden, Robert Fleck et Maria Lind, ainsi que moi-même en tant que coordinateur. Joe Cox, l'autre coordinateur, était resté au casino pour accueillir d'autres invités. Juste avant de commencer, Lydie Polfer regarde la salle bondée, se tourne vers moi et demande sur un ton qui me parut agacé. Qui sont tous ces gens? Les artistes? Et je lui réponds, non, les journalistes accrédités. À ces mots, elle se redressa et prit tout à coup un air solennel. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle avait grandi de 20 cm. Une heure plus tard, la conférence de presse se terminait sous les applaudissements et dans les jours qui suivirent, parurent une bonne centaine d'articles dans la presse internationale sur une exposition d'art contemporain à Luxembourg. « Du jamais vu », disait-on de tous côtés. Manifesta avait eu lieu pour la première fois à Rotterdam 2 ans plus tôt. C'était une époque où les biennales d'art contemporain se multipliaient un peu partout dans le monde, à une vitesse qui allait grandissant. D'ailleurs, bientôt suivie par les foires, dont celle de Luxembourg est un exemple tardif. Le mur de Berlin s'étant écroulé en 1989, et l'Union soviétique effondrée peu après, le monde sembla soudain s'élargir considérablement et offrir une liberté insoupçonnée. Pour ceux et celles qui, depuis plus ou moins longtemps, avaient cherché, voire trouvé, dans le travail des artistes vivants les plus novateurs, des univers échappant au conformisme et à la sclérose intellectuelle, l'aubaine était inespérée. Nombre d'entre eux avaient peiné pendant des décennies à faire accepter des pratiques artistiques que l'écrasante majorité de la population ignorait ou abhorrait lorsqu'elle les rencontrait, et dont seuls les médias spécialisés et souvent confidentiels rendaient compte. Or désormais, en cette fin de deuxième millénaire, les occasions de montrer et de voir de l'art contemporain devenaient enfin beaucoup moins rares. Bien sûr, la raison de cette effervescence n'était pas un amour subi pour l'art en train de se faire, mais plutôt une convergence de facteurs qui lui étaient extérieurs. D'une part, la nouvelle situation en Europe troublait les repères habituels et encourageait de nouveaux acteurs à se positionner afin de ne pas rater la course aux places à gagner dans les configurations futures. Cela donna lieu, entre autres, à d'innombrables débats sur les centres et les périphéries, concept dont la définition devenait d'ailleurs difficile dans un monde en pleine mutation qui, en plus, vit l'essor vigoureux de nouvelles technologies et de pratiques de communication. D'autre part, l'art contemporain n'avait jusque-là guère joui d'une reconnaissance et ni d'une popularité enviable. Il était même souvent considéré comme rédhibitoire par la prétendue bonne société et n'apparaissait que très rarement dans les médias dominants. Mais on s'aperçut tout à coup qu'il possédait au moins deux caractéristiques parfaitement adaptées au nouveau monde en gestation. Il était résolument international et il était très mobile. Contrairement à l'art ancien et moderne, en effet, dont les chefs-d'œuvre se trouvaient déjà dans des collections prestigieuses et voyageaient difficilement, les artistes vivants et leurs travaux coûtaient peu en déplacement. Une ville qui désirait se profiler afin d'apparaître sur les cartes en train de se dessiner n'avait donc qu'à créer une biennale d'art contemporain. C'était un moyen peu coûteux pour faire parler d'elle dans un système médiatique en instance de globalisation. Le seul véritable risque qu'elle encourait était de rencontrer l'hostilité, ou plus souvent l'indifférence de la population locale, fort éloignée des enjeux de l'art. D'où, en réponse, la prolifération de projets artistiques à caractère presque missionnaire, s'adressant directement à des groupes d'habitants de toutes sortes, qui virent débarquer des artistes venus de loin pour leur faire prendre part à des œuvres participatives ou les initier aux joies de l'esthétique relationnelle dont ils ignoraient l'existence jusque-là. Or, dès le milieu des années 1990, ces phénomènes nouveaux avaient fait l'objet de critiques. On voyait poindre les dangers de l'instrumentalisation des artistes et de la marchandisation de l'art dans un but de promotion touristique et économique. On s'inquiétait de l'uniformisation prévisible des pratiques. On constatait l'essoufflement des idées ainsi que leur complicité avec les tendances à la spectacularisation du système libéral triomphant et avec l'embourgeoisement des quartiers, ou leur gentrification, comme on dit en franglais, mais l'expression la plus juste est peut-être refoulement des couches populaires en vue de leur ghettoisation. Toutes les hantises génialement pressenties par Walter Benjamin dès les années 30 dans l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, ou par Günther Anders dans les années 50 dans l'obsolescence de l'homme, ou par Guy Debord en 1967 dans la société du spectacle, semblaient se concrétiser sous nos yeux. Et cependant, même chez les véritables amateurs d'art, l'euphorie prédominait et l'espoir d'arriver à propager les idées émancipatrices de l'art contemporain dans le monde à venir était nourri par la possibilité de permettre enfin à plus de gens d'en faire une expérience directe. Dans ce contexte, Manifesta avait deux originalités. Elle se voulait itinérante et résolument européenne. Une Europe ouverte, d'emblée entendue comme continent, c'est-à-dire s'étalant des côtes portugaises sur l'Atlantique aux montagnes de l'Oural et du nord de la Finlande à Istanbul. Cette générosité géographique et cette mobilité étaient une réponse à la situation politique, sociale et culturelle du moment. Après un demi-siècle d'éloignement et de méfiance, il était temps de traiter en égaux les artistes des anciens pays du bloc soviétique et de leur donner une chance de se mesurer équitablement à ceux du monde capitaliste. En réalité, malgré ses belles promesses, après 11 éditions, Manifesta n'a fait que deux timides incursions à l'Est, à Ljubljana en 2000 et à Saint-Pétersbourg en 2014, deux villes que l'on pourrait au mieux considérer comme des frontières entre ce qui fut deux Europes. Et d'ailleurs, ça ne s'arrange pas puisqu'en 2020, la prochaine édition aura lieu à Marseille, donc toujours très loin des anciens pays de l'Est. Jamais donc le courage ou le sens réaliste des réalités économiques et organisationnelles des responsables de la Biennale ne leur ont permis de s'aventurer au cœur de l'ancien monde communiste. Cette déception s'était manifestée très tôt, car passé de Rotterdam en 1996 à Luxembourg en 1998 ne fut pas un grand pas, ni en termes géographiques, ni en termes de décalage politique ou intellectuel. À mon avis, tout le monde s'attendait au pire. Mais à la surprise générale, Manifesta 2 fut une réussite. Et pour nombre de professionnels, elle compte parmi les meilleures biennales jamais réalisées. Alors, la réalité est que, mais cela nous ne le sûmes que plus tard, Luxembourg était la seule candidate pour reprendre cette manifestation qui à Rotterdam n'avait pas engendré la dynamique escomptée et qui en plus s'était terminée sur un déficit financier considérable que les villes suivantes ont dû résorber et Luxembourg la première. Cela a d'ailleurs constitué pour chacune d'entre elles un handicap de départ qui a été une raison, sinon un argument d'élimination pour maintes villes candidates. Ainsi, sans Luxembourg, il n'y aurait peut-être pas eu de deuxième Manifesta. Et ce n'est qu'après le succès de cette édition que les candidats se sont multipliés pour les suivantes. Toujours est-il que Manifesta 2 rassembla 46 artistes. Ce qui a d'emblée frappé les professionnels et les commentateurs, c'est la forte présence des artistes de l'ancienne Europe de l'Est. Et ce qui a prévalu chez ces derniers, c'est le sentiment, nouveau pour eux, d'avoir été traités d'égal à égal avec leurs collègues de l'Ouest. Cela paraît anecdotique aujourd'hui, mais à l'époque, c'est cet équilibre qui a beaucoup impressionné et qui a fait parler de la manifestation comme d'un exemple à suivre. Cette présence conséquente d'artistes de l'ex-bloc soviétique était due au fait que les coordinateurs et les trois curateurs avaient pris au sérieux la mission affichée par cette biennale. En effet, dès que les curateurs furent désignés au début de l'année 1997, ils entreprirent de sillonner les pays européens pour rencontrer sur place, dans leur atelier le plus souvent, les artistes prometteurs et faire ainsi leur choix de première main. Cela n'avait pas été fait à cette échelle auparavant et cela n'arrive presque plus maintenant que les galeries sont pratiquement toujours les intermédiaires obligés. Ce travail fut en partie facilité par l'établissement, quelques années auparavant, des centres Soros pour l'art contemporain dans la plupart des capitales de l'Est. Le milliardaire hongrois, établi aux États-Unis, voulait contribuer ainsi à réduire l'écart entre les scènes artistiques de l'Est et de l'Ouest. Ces lieux avaient une fonction centralisatrice. Les curateurs purent y rencontrer nombre d'artistes intéressants et une fonction d'aide à la mobilité et à la création. Bon nombre d'artistes de Manifesta 2 ont effectivement bénéficié de leur soutien. Et puis, un autre élément déterminant a beaucoup contribué à faciliter les choses, l'apparition d'Internet. De fait, les artistes de l'Est ont été parmi les premiers à avoir une adresse électronique, ce qui était moins onéreux pour eux que le téléphone, le fax ou la lettre par voie postale, à condition d'avoir accès à un ordinateur, bien entendu. Et c'est justement ce que leur permettaient les centres Soros. La communication avec les artistes de l'Est s'est donc surtout faite par ce biais-là dès l'été 1997, alors que les artistes de l'Ouest ont généralement adopté la communication par courriel bien plus tard. En revanche, les sites Internet ont été des instruments vite utilisés, surtout par des artistes de l'Europe occidentale, parce que les ordinateurs leur étaient plus accessibles. Par exemple, Alicia Framis, pour son travail Dream Keepers sur le phénomène des suicides à partir du pont Adolphe à Luxembourg. Par ailleurs, la réussite de Manifesta 2 est aussi due au fait que les coordinateurs ont tout mis en œuvre pour que les artistes créent des pièces spécialement conçues pour cette occasion, ce qui était loin d'être évident vu le budget disponible. ni à Rotterdam en 96, ni à Ljubljana en 2000 et ni à Francfort en 2002, n'y sont parvenus dans cette mesure. À Luxembourg, tous les artistes sont venus visiter les espaces d'exposition au préalable, ce qui explique le nombre exceptionnel d'œuvres in situ et dans des lieux parfois insolites. Comme par exemple la pièce du docteur Galantin Gatev dans le nouveau parking de la Rocade à Bonnevoie. Si une image, donc, elle était composée de dessins au crochet d'une vidéo et puis à droite une sculpture ou un pop orthodoxe tourné en rond sur sa moto. On voit ici cette photo aussi. Il y avait aussi Inès Adjosing qui, dans une vitrine près de la place du Roi de Petz, dans une vitrine de magasin, avait son installation. Il y avait aussi la pièce de Thilo Schulz qui investissait plusieurs endroits de la ville, dont ici le plateau du Saint-Esprit, mais aussi dans le souterrain du centre Aldringen. Et puis il y avait aussi la pièce d'Antoine Prüm qui était en fait un récit assez énigmatique qui promenait le visiteur dans plusieurs endroits de la ville et surtout dans le tunnel en dessous de la ville et que donc les visiteurs de Manifesta 2 ont pu découvrir des années avant les marathoniens. La jeune équipe du casino, encore très réduite et plutôt inexpérimentée, l'organisation d'une exposition d'une telle envergure et l'apprentissage de techniques nouvelles ont constitué un défi énorme, qu'elle a d'ailleurs relevé avec un certain brio, il faut le dire. Alors, une image de cette équipe ici, entourée en fait aussi des stagiaires luxembourgeois et internationaux. Cette idée des stagiaires avait été très importante. C'était une idée de Maria Lind et ça a permis évidemment de renforcer l'équipe dans les dernières semaines avant le vernissage. Et puis aussi, ils avaient constitué un réseau international très important dont le casino beaucoup bénéficiait par la suite. Mais surtout, à cette jeune équipe, il a fallu coordonner le travail de plusieurs institutions qui n'avait jamais rien fait de tel, et en même temps investir l'espace urbain avec quantité de projets ambitieux. C'était une grande nouveauté pour Luxembourg, et la qualité des réalisations artistiques, le superbe recueil d'informations que constitua le catalogue et l'installation de l'Infolab au casino, rassemblant une énorme quantité de dossiers et de catalogues d'artistes, c'était avant l'avènement de Wikipédia, hein, donc cette documentation a été très importante. Et puis il y a eu aussi le riche programme culturel qui faisait intervenir bon nombre de personnalités émergentes du monde de l'art de l'époque. Tout cela a fait de Manifesta 2 un événement de référence. Pour mémoire aussi, l'Infolab qui avait été réalisé à cette époque, donc avec plein de documentation, et il avait été réalisé par un architecte luxembourgeois, Philippe Schmidt. En y repensant, il est remarquable, mais c'est peut-être aussi une explication, que ce soit un pays quasiment inexistant sur la carte du monde de l'art qui ait réalisé une telle manifestation. Car ce qui a été proposé fut un étonnement, non seulement pour les Luxembourgeois, mais aussi pour les professionnels venus d'ailleurs qui découvraient subitement que ce pays était déjà en phase avec ce qui se faisait de plus récent en matière de création artistique, et ce, sous toutes ses formes. Par exemple, en matière d'esthétique relationnelle, dont on parlait beaucoup à l'époque suite à la parution du livre homonyme de Nicolas Bourriaud, avec le bar à orange d'Apollonia Susterschik au CPCA à Bonnevoie. Donc c'était un bar qui était une pièce de l'exposition, donc une œuvre d'une artiste, et qui avait fonctionné pendant tout l'été 98, donc au CPCA. Mais il y avait aussi de la photographie parfois très polémique de Elke Christoffek, avec des scènes assez osées. Et puis, dans l'ascenseur du musée d'histoire de la ville, il y avait, entre autres, cette performance très féministe de Tania Ostojic. En matière de monuments vivants, ce qui était une discussion très nouvelle à l'époque, il y avait la pièce de Sanya Ivkovic, toujours au musée d'histoire de la ville. Ce travail fait en collaboration avec le Refuge pour femmes battues de Luxembourg et de Zagreb. Et Sanya avait aussi proposé un autre projet pour la Gueulefra qui n'a pas été réalisé à ce moment-là. Et puis il y avait aussi des performances chocs comme celle de Piotr Uklansky qui, pendant les journées d'ouverture, avec son très spectaculaire « Homme en feu ». Il n'est pas sûr que l'on verra encore beaucoup d'œuvres de ce type dans les musées publics dans un avenir proche. Les restrictions, aussi bien sécuritaires que morales, voire pudibondes, qui prévalent à notre époque, ainsi que l'anti-intellectualisme de nombreux politiques et la soumission galopante de nombreux responsables d'institutions, n'augurent rien de bon de ce point de vue. Mais si le monde de l'art a enfin commencé à vraiment s'intéresser à Luxembourg à l'occasion de Manifesta 2, on ne peut pas dire que l'exposition ait rencontré un véritable succès dans le pays même. Elle a compté à peine 10 000 visiteurs, dont une très grande partie venue de l'étranger, en un peu plus de 3 mois. Et ce, pour l'ensemble des lieux. Casino Luxembourg, Villa Vauban, Musée national d'histoire et d'art, Musée d'histoire de la ville de Luxembourg et CPCA à Bonnevoie. On peut même considérer qu'elle fut un échec cuisant de ce point de vue. Et pourtant, l'exposition réunissait bon nombre d'artistes qui sont des stars aujourd'hui, comme Pierre Huyghe ou Maurizio Cattelan, et des œuvres très spectaculaires, comme celle d'Honoré Do dans le hall du MNHA ou la piscine de Bjarne Melgaard au CPCA, pour ne citer que ces exemples. Donc, le public luxembourgeois s'est très peu senti concerné par l'exposition, voire ne l'a guère perçu. Une partie de la scène artistique locale l'a même boudée, probablement parce qu'elle sentait bien que l'internationalisation des pratiques artistiques qu'elle promouvait allait mettre à mal les hiérarchies provinciales établies, hiérarchies que les artistes luxembourgeois sélectionnés par les curateurs ne confortaient pas, bien évidemment. Par exemple, il y avait Michel Magirus, qui n'avait plus exposé au Luxembourg depuis une petite exposition collective au Bijmengel en 1991, et qui m'avait dit que c'était uniquement à cause de la réputation du casino qu'il avait accepté de participer à cette exposition dans son pays. Il fit une très belle intervention aussi bien au cinéma Utopia qu'au CPCA à Bonnevoie. Bert Thijs, quant à lui, rompait complètement avec ce qui se faisait à Luxembourg en matière d'art. Une fois invité, il s'est autoproclamé « subcurator », se référant au subcommandante Marcos du Chiapas, figure célèbre de l'altermondialisme à l'époque, et Bert a intégré dans l'exposition sa réalisation récente pour le casino, le domaine de Marcel et Joseph. Il a organisé une navette régulière incluant un groupe de musique africaine entre Luxembourg et Trèves, la ville natale de Karl Marx, auteur du Manifeste communiste, et ce qui pour lui faisait pendant à l'événement capitaliste que constituait Manifesta. Et il a initié, en collaboration avec l'Université de Luxembourg, un atelier annuel pour jeunes artistes internationaux. Workshop qui a d'ailleurs perduré pendant une douzaine d'années. Enfin, la fiction narrative déjà mentionnée d'Antoine Prüm, qui se débroyait également dans des espaces normalement inaccessibles de la ville à Vauban, annonçait son futur travail cinématographique. Avec le recul, on peut se dire qu'il est bien dommage qu'il n'y ait eu à cette époque au Luxembourg que très peu de gens pour apprécier Manifesta 2 à sa juste valeur. Pour mesurer cette incompréhension, il suffit de se rappeler qu'après l'exposition, les tentatives de faire acheter quelques œuvres exposées ont pratiquement toutes échoué. Nous avions en effet tenté en vain de persuader la ville de Luxembourg d'acquérir le jardin de Tobias Rehberger installé en face du casino sur le boulevard Roosevelt, alors que la galerie était prête à la céder pour un prix qui fait rêver aujourd'hui. 200 000 francs luxembourgeois, si mes souvenirs sont bons, donc quelques 5 000 euros aujourd'hui. Et de même pour l'olivier de Maurizio Cattelan, que l'on pouvait avoir pour l'équivalent de 15 000 euros, mécanisme d'élévation compris. Cet olivier fait aujourd'hui partie des collections du Castello di Rivoli, près de Turin. Et pour l'anecdote, une fois l'installation démontée, l'arbre a été déposé au service communal des parcs, à la grande joie des jardiniers. Et je ne sais pas s'il y a encore aujourd'hui. J'ai un jour calculé qu'avec probablement un peu plus d'un demi-million d'euros, l'ensemble des œuvres de Manifesta II aurait pu entrer dans les collections luxembourgeoises, ce qui aurait constitué, vu sa qualité et la renommée des artistes présents, un beau fonds pour le futur musée. Alors, étant donné le peu d'intérêt suscité par cet événement, on peut se demander ce qui l'a rendu possible en amont. La réponse me paraît simple. C'est le Casino Luxembourg, forum d'art contemporain, ouvert en 1996, et son dynamisme qui ont amené Manifesta à Luxembourg. En effet, tout au long de 1995, alors que l'année culturelle battait son plein avec le succès que l'on sait, des pourparlers avaient eu lieu entre le ministère de la Culture et les gérants temporaires du casino, en l'occurrence Joe Cox et moi-même, afin de continuer à utiliser le lieu pour y montrer de l'art contemporain international. Il faut se souvenir du contexte. Un gouvernement remanié était en place suite au départ de M. Jacques Santer pour la Commission européenne et sous l'égide de M. Robert Goebbels, ministre des Travaux publics, les discussions pour relancer la construction d'une version réduite du musée Pey avaient repris. Nos arguments, à Joe et à moi, étaient les suivants. D'une part, après le gel en 1993 du premier projet du musée lancé en 1989, il apparaissait judicieux, pour familiariser le public avec les nouvelles formes d'expression, de préparer le terrain avec des expositions durant la phase de construction du futur musée. Et d'autre part, l'ancien casino bourgeois, superbement aménagé par Urs Rausmüller pour servir de lieu d'exposition à l'année culturelle, était parfaitement adapté pour fonctionner comme centre d'art contemporain sans transformation aucune. Ces arguments étaient, je crois, fort raisonnables. Mais d'autres idées circulaient, notamment celle de faire du bâtiment un centre pour la presse qui pourrait également servir de lieu de réception officielle au gouvernement. Ce qui, après tout, s'inscrivait dans une tradition historique. Durant la Seconde Guerre mondiale, la grande salle à l'étage du casino bourgeois avait servi à plusieurs reprises de salle de banquet pour les dirigeants nazis et juste après la guerre, c'est à l'occasion de la venue de Winston Churchill qu'elle avait rempli cette fonction. Et cette nécessité, ou peut-être simplement cette envie, d'un lieu pour des cérémonies officielles était si puissante qu'il est permis de croire que la raison d'être inavouée du musée Pey était bien celle-là. Et je renvoie à ce sujet à une conférence que j'ai tenue dans le cadre de la Biennale de Venise l'année dernière et dont le texte sera bientôt republié dans les cahiers luxembourgeois. Le Casino Luxembourg a donc ouvert ses portes en mars 1996 avec, entre autres, une exposition proposant des œuvres de Grazia Toderi, Toni Hursler, Anne-Marie Junier et Jeff Wall, artistes que l'on peut voir actuellement au MUDAM. À vocation internationale dès le début, le casino a commencé à collaborer avec des institutions un peu partout en Europe, voire au-delà. Il a aussi immédiatement utilisé l'espace public de Luxembourg comme terrain d'action, comme en témoigne le projet Action Urbaine en 1996, en collaboration avec le FRAC Lorraine, et pour lequel Robert Milin avait réalisé un jardin ouvrier en plein centre-ville, derrière les bains municipaux. Jardin avec potager passionnément entretenu pendant plusieurs mois par Pedro, un citoyen immigré tombé amoureux de cette œuvre. Pour rappel aussi, cette pièce donc, qui était très belle à voir dans le centre-ville et qui détonnait très bien. Alors, cela dit, il faut reconnaître que le casino est lui aussi dû à une conjonction favorable. Erna Hennikoschöpsös a en effet soutenu l'idée de sa création après son retour de la Biennale de Venise en 1995, où, constatant le succès de l'œuvre Potemkinlog de Berthais, elle avait compris que pour se démarquer sur ce terrain, le Luxembourg devra jouer la carte de l'audace sans compromis. L'appui de la ministre, ajouté au fait que dédier le bâtiment de l'ancien casino bourgeois à l'art contemporain coûtait bien moins cher que toute autre affectation, ont été décisifs. C'est donc tout cela qui explique la possibilité d'une Manifesta II à Luxembourg. Avec le recul, on peut affirmer que pendant deux décennies, le pays s'est aventuré depuis sur le terrain de l'art contemporain avec une passion, une ouverture d'esprit et un dynamisme remarquable. On pourrait en effet faire une lecture factuelle de cette histoire en termes de dépassement, voire de transgression, d'audace et d'occasion saisie au vol. Pendant toute cette période, en effet, le programme du Casino Luxembourg apparaît comme un catalogue de projets qui ont tous contribué à en faire un centre d'art de référence, des projets qui faisaient une large part à l'expérimentation, à l'ouverture et aux collaborations internationales. Le postulat, et ça c'est, je pense, très important, était que pour participer pleinement à l'aventure de l'art, il ne fallait surtout pas faire ce que d'autres avaient déjà fait, mais créer ensemble avec les artistes des situations et des expériences nouvelles. Et il suffit de se référer au site internet du casino, mais aussi à celui du Moudam, pour se rendre compte de ce qui a été réalisé dans les jeunes années de ces institutions. Elles ont, chacune à sa manière, posé un regard nouveau sur le monde à travers le travail des artistes et ont été des lieux de connaissance, de réflexion et de contemplation en s'appuyant sur le pouvoir poétique et émancipateur de l'art. C'est à travers leurs réalisations concrètes qu'elles ont proposé à chacun de repenser le monde et de se réinventer, et c'est là-dessus qu'elles ont construit leur réputation, non à travers une communication fondée sur des images vaines et des textes promotionnels qui réduisent tout à de la consommation. Je citerai quelques exemples de ces expositions. Par exemple, Many Colored Objects Placed Side by Side, qui en l'an 2000 présentait pour la première fois un grand ensemble d'œuvres de la collection Annick et Anton Herbert, et qui a vu débarquer à Luxembourg des artistes aussi célèbres que Jill Baden-George, Lawrence Vina, Mike Kelly et beaucoup d'autres, ainsi que de nombreuses personnalités du monde de l'art. Alors, autre exemple, la série Un bel été, qui a constitué en 3 expositions. La première exposition a permis d'associer artistes historiques et jeunes en devenir dans des constellations inédites. La seconde était un magnifique projet monographique de Stanley Brown, et il a lui-même considéré que c'était l'une de ses expositions les plus réussies. Et la troisième, une merveilleuse combinaison d'œuvres de Lucio Fontana, Lee Friedlander, Stanley Brown et Marguerite Duras. Il est intéressant de rappeler que cette exposition présentait une 50aine d'œuvres de Lucio Fontana, dont certaines n'avaient jamais été montrées au public. Par exemple, un dessin figuratif à motif érotique de la fin des années 50. Et il me plaît aussi de faire un parallèle ici avec l'exposition « Picasso et moi » de Damien de Roubaix au Moudam en 2016, qui était simultanément la plus grande exposition Picasso jamais réalisée au Luxembourg. Importante également, l'exposition « Gare de l'Est » en 1998, où l'on a pu découvrir les artistes aujourd'hui très connus que sont Wang Du, Wang Yongping, Claude Lévesque, Pascal Martin Taillou et d'autres. Et il faudrait mentionner aussi des projets comme F.A. Larsen, Open House, Light Pieces, L'œil écran sans vidéo pour repenser le monde. Et il y en a encore toute une série qui, chacun à sa manière, montrait les possibles de l'art et questionnait les limites de l'institution et des collaborations internationales. Ou bien l'exposition « L'humanité mise à nu » en collaboration avec le FRAC Languedoc-Roussillon, où l'on pouvait voir le célèbre « Spaghetti Man » de Paul McCarthy, qui, je pense, n'a jamais été montré depuis. Alors, les collaborations internationales se sont manifestées superbement dans le projet Relocation Shake, qui entre 2001 et 2004 réunissait 7 centres d'art européens et que le programme Culture 2000 de la Commission européenne a considéré comme un projet exemplaire au moment du passage à l'euro et de l'élargissement de l'Union européenne. Cette initiative, entièrement coordonnée par le Casino, c'est même terminé par une émission de télévision entre les 7 centres d'art. Émission diffusée en direct sur 2 chaînes nationales, RTL Tele Lützbüch et Romagna TV Cultural, entreprise unique au monde à ma connaissance. Alors, il y a aussi eu beaucoup d'expositions monographiques et relevant que c'est le Casino qui a réalisé les toutes premières grandes expositions personnelles d'artistes comme Grazia Toderi, Jacques Charlier, Peter Friedel, Netko Solakoff, Didier B, Jim Shaw, mais aussi Sylvie Blocher, Simon Decker, Oussou Metsé, par exemple. Et c'est en faisant ces grandes expositions, les premières pour ces artistes, que leur ont souvent permis de mettre le pied à l'étrier et de participer activement à l'histoire de l'art en train de se faire. Il me paraît également important de rappeler que dès le début, de nombreux projets ont investi l'espace public. Le projet Action Urbaine, déjà cité, et l'intervention de Jacques Charlier sur la façade du casino en 1987, avec la surface de l'art, bien sûr, mais aussi les nombreux projets du kiosque de Laïka, qui, à partir de 2005, ont permis à de nombreux jeunes artistes luxembourgeois d'investir ce pavillon urbain très bien situé, du moins jusqu'à la réfection du pont Adolphe. Ou encore, le travail réalisé sur les sculptures dans l'espace urbain par Simon Decker à l'occasion de son exposition monographique Point of View en 2004. Et puis, je rappelle aussi les deux grandes expositions sous les ponts le long de la rivière en 2001 et en 2005. Alors, par ailleurs, à Venise aussi, le Luxembourg est parvenu à se faire remarquer en suivant une voie singulière. Son pavillon, établi dans l'ancienne Ca del Duca sur le Canal Grande, un peu à l'écart de l'activité principale de la Biennale, a été inauguré par Simon Deck justement en 1999. Avec ses Chewing and Folding Projects, elle a montré encore une fois qu'on pouvait réaliser de grandes choses malgré des espaces et des moyens limités. Et tous ces efforts ont été récompensés en 2003 par le Lion d'or attribué à une merveilleuse artiste, très peu connue à ce moment-là, Soumetsé, invitée par Marie-Claude Beau, qui elle non plus n'a jamais suivi des chemins battus. Alors voici une image de la Ca del Duca, donc, qui a été pendant pratiquement 20 ans le pavillon luxembourgeois. Aujourd'hui, donc, ça ne sera plus le cas. Ici avec une des œuvres de Simon Decker, donc, de ses Chewing Projects, une autre ici, qui font partie de la collection du Moudam, ses œuvres aujourd'hui, et puis la très belle image aussi de Soumet qui lui a valu le Lion d'or. Maintenant que le pavillon luxembourgeois se trouve dans un emplacement mainstream, comme s'il n'y avait plus ni le courage ni même le désir de vouloir faire son propre chemin, il n'est pas certain que les artistes luxembourgeois parviendront encore à se démarquer dans le capharnaüm artistique que constitue la Biennale aujourd'hui. Alors, cependant, et ce sera ma dernière partie, à toujours questionner les limites et à faire œuvre de pionnier, on peut déplaire, voire choquer. Et c'est arrivé quelquefois, bien sûr. Il y eut d'abord, un peu comme pour lancer le débat, l'exposition Rendez-vous provoqué au Musée national en 1994, dans laquelle l'œuvre de l'artiste néerlandais Berend Strik avait provoqué un véritable scandale, suscité des appels à la censure, une manifestation de protestation de l'Association de protection des animaux et beaucoup d'injures. À l'époque, le ministère de la Culture s'est rangé du côté de l'art et a soutenu le musée face aux critiques. Cela laisse rêveur aujourd'hui. Mais on peut aussi se demander si de nos jours, les institutions culturelles ne pratiquent pas déjà une autocensure en amont afin d'éviter que le problème ne se pose. Et des scandales, plus ou moins grands, il y en eut d'autres. Rappelons la grande rétrospective de l'artiste Didier B., une figure historique de l'art narratif à l'instar d'un Christian Boltanski à ses débuts. L'affiche de cette exposition, que certains ont qualifiée de pornographique, avait franchement déplu aux responsables de la Caisse d'épargne, pourtant partenaires du projet, qui ont refusé de diffuser l'affiche dans leurs agences, contrairement à ce qui avait été prévu. Un autre scandale est venu de l'œuvre Le Biti de Olivier Blancard en 1998, dans le cadre de l'exposition Gare de l'Est, elle aussi déjà évoquée. Son installation, qui était une réflexion sur l'image des présidents français depuis la Troisième République, s'appuyant sur le portrait officiel réalisé par Bettina Reims au moment de la nomination de Jacques Chirac, avait failli provoquer un incident diplomatique entre la France et le Luxembourg en raison de l'intervention, jugé hystérique par beaucoup, de l'ambassadeur de France à l'époque. Or, la ministre de la Culture, Mme Erna Hennicot-Schoepges, toujours elle, s'était clairement déclarée contre toute censure et l'œuvre est restée en place jusqu'à la fin de l'exposition. Et il est même permis de penser que Jacques Chirac l'aurait trouvée plutôt flatteuse pour lui. C'est une image de l'œuvre de Berend Strik, donc avec un chat empaillé suspendu, ici c'était dans le hall du musée national, donc avant transformation, sur une noix de muscade. C'était une œuvre qui en fait était une réflexion sur la globalisation, la mondialisation. C'était un mot qui était assez nouveau à l'époque et en fait qui a provoqué un grand scandale ici. Ici une autre œuvre de cette installation. et puis le Biti de Jacques Chirac, d'Olivier Blancard, qui était en fait une fontaine. Et on voit ici ce centaure cerf qui regarde des photos de jeunes filles de Bettina Reims. Et c'était Bettina Reims qui avait fait le portrait officiel de Jacques Chirac. Cependant, le plus grand scandale artistique au Luxembourg est venu d'une œuvre qui pourtant était d'une extrême générosité. Lady Rosa de Luxembourg, de Saniewiecowicz, en 2001. Œuvre présentée dans le cadre d'une exposition initiée par le Musée d'histoire de la ville et qui portait un titre prémonitoire. Luxembourg, les Luxembourgeois, consensus et passion bridée. C'est un titre qui me fait toujours rêver. Quelques jours après son installation, dans l'espace public, un torrent de protestations haineuses s'est déversé sur cette sculpture représentant une femme enceinte sur le modèle de la Gueulefra, un monument aux morts tout proche. Des dizaines d'articles et de lettres de lecteurs ont été publiés, sans compter les courriers anonymes ou non. Pour certains, le pays tout entier était divisé entre ceux qui voulaient l'abattre et ceux, ou surtout celles, qui voulaient la garder. Et l'intervention que l'on peut qualifier d'historique de Mme Erna Henoukoschöpsches le 18 avril 2001 sur RTL, où elle prend courageusement la défense de l'œuvre, lui a valu l'admiration de la scène culturelle bien au-delà des frontières nationales. Lady Rosa est restée en place jusqu'à la fin de l'exposition et a été montrée plusieurs fois en Europe par la suite, comme au Van Abbe Museum à Eindhoven et récemment encore à la Biennale de Limerick en Irlande. Et puis, avant de revenir à Luxembourg dans une exposition au Moudam en 2012, où le jour du vernissage, Saniewiecowicz avait réalisé une performance se référant à la célèbre photographie montrant Marcel Duchamp et Eva Babitz jouant aux échecs dans le musée de Philadelphie, elle a été exposée dans le hall du MoMA à New York. Elle est ainsi la première œuvre spécialement réalisée pour Luxembourg montrée dans un cadre aussi prestigieux. Voici quelques images dont je pense la plupart se souviennent, donc de Lady Rosa of Luxembourg. Ici, cette photo, c'est Christian Mozart qui l'a prise, donc où on voit les deux femmes, l'une enceinte, l'autre pas. Une des photos des nombreuses manifestations, actions qui ont lieu au pied de cette sculpture. Et ici, donc, la photo qui est à la base de la performance de Saniewiecowicz, où on voit Marcel Duchamp et Eva Babitz dans le musée à Philadelphie. Et ici, la performance faite dans l'auditorium du MoDam lors du vernissage et où Saniewiecowicz questionnait la relation du pouvoir entre l'artiste et l'institution. Et puis, ici, on voit la Lady Rosa donc, au MoMA, dans le hall du MoMA, où il y avait tout le dispositif qui était présenté, et aussi la grande photo, 6 mètres sur 6 mètres. Je pense que jamais un Luxembourgeois n'a eu une œuvre aussi grande au MoMA jusqu'à présent. Donc c'est la photo de Christian qui est là. Et alors, tout ce dispositif, il y avait tous les journaux, les documents sur Luxembourg aussi, et si déjà on parle de nation branding, ici je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Alors, pour finir, je citerai l'exposition Cloaca 2000-2007 de Wim Delvoye, qui a eu lieu au Casino pendant la deuxième année culturelle. Elle aussi a suscité des protestations, deux questions parlementaires, des lettres d'injures anonymes et j'en passe. Mais Luxembourg est aujourd'hui encore le seul endroit au monde où toutes les machines de Wim Delvoye ont été réunies en une seule exposition, qui de ce fait reste un moment unique dans l'histoire de l'art. Comme était unique aussi la chapelle réalisée par le même artiste, spécialement pour le MoDam. Et je dois dire que le fait d'avoir quitté le musée sur une magnifique rétrospective de Wim Delvoye reste pour moi un motif de fierté. Voici une image donc Cloaca en 2007 au Casino. Il y avait 7 machines donc qui étaient exposées en tout, avec toutes les maquettes, les dessins et tout ce qui avait trait à son énorme projet. Et puis la chapelle que tout le monde connaît et qui maintenant n'est plus visible.
Thank you. pass to me. I lift my lamp beside the golden door.
Alors pour conclure, je pense que le Luxembourg s'est forgé un nom dans le monde de l'art contemporain avant tout parce que pendant près de deux décennies, d'abord autour d'artistes comme Bert Thijs, qui a été le premier à entamer un parcours véritablement international, ensuite autour du casino, puis avec l'appui du Moudam en gestation et dans ses années de jeunesse, les propositions artistiques n'ont pas essayé de suivre l'actualité du monde de l'art, mais l'ont en partie nourri. Ce fut une véritable aventure sur le plan artistique, intellectuel et humain qui a fait la réputation du Luxembourg dans le monde de l'art. Pour l'entreprendre, il a fallu beaucoup de dynamisme, de la passion, du courage et de l'ouverture d'esprit. Et il a surtout fallu toujours se mettre au service des artistes et aller jusqu'au bout de leurs idées et de leur intuition artistique. Je pense que ce sont ces qualités qui ont permis au Grand-Duché de s'émanciper de son provincialisme artistique atavique et de produire autre chose qu'un comportement moutonnier de nouveaux riches. J'ai eu beaucoup de chance de participer activement à cette aventure intense et depuis que je m'aventure sur d'autres sentiers, j'observe la suite avec beaucoup de curiosité. Merci.
Bravo Enrico et merci pour cette conférence plus qu'édifiante. J'ai une seule question, je suis une engfro. Une question, je la poserai en français. Est-ce que dans toute cette histoire, il y a une ou des expositions que tu aurais aimé faire et que tu n'as pas pu ou que tu n'as pas faites? Est-ce qu'il y a une exposition, des choses que tu regrettes? Il y en a peut-être plus, mais peut-être qu'il y a un exemple qui est important pour nous.
Il y a beaucoup de choses qu'on aurait encore aimé faire. Je n'étais pas préparé à cette question, mais en fait, si là, spontanément, j'aurais aimé que Bert Thijs soit là pour faire l'exposition au Moudam, qu'on prépare lui, qu'on avait commencé à préparer avant son décès. Et je pense qu'il manque beaucoup aussi dans le paysage artistique.
Merci Enrico, c'était exceptionnel. Merci d'avoir accepté de venir ici, de nous raconter cette histoire à ta manière, avec ces informations parfois assez personnelles et des données qu'on ne connaissait pas. Donc, vielmals merci Enrico, dat was genial. Und dann, bis geschwind Enrico, hoffentlich.
Konferenzen, Enregistrementer zu aktuellen Themen.
Radio 100,7.
20 ans d'art contemporain à Luxembourg. Défis et limites. Eine Konferenz vom 10. November am Kader von der Luxembourg Art Week 2018. Die Konferenz hier werden Enrico Lunghi, Kurator und Kunstkritiker. Informationen zu dieser und den anderen Konferenzen am Kader von der Luxembourg Art Week 2018 sind zu finden am Sitz vom Radio und Konferenzen.